Vous écoutez
RMC.
RMC. L'After Foot.
Gilbert Bribois.
23h27, Kevin Diaz, Stéphane Guy et Paulo Breitner, ils sont tous là. Alors, avant qu'on accueille Pedro, donc socio du Barça, mon petit Paulo, redis-nous ce que tu as développé lundi dans la page Drôle de l'âme concernant les socios dans les clubs espagnols. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te contrarie?
Mais non, mais le système, je suis pour. Donc je n'ai jamais critiqué ce système-là. Ce que je critique, c'est trois choses. Un, le pays des socios, puisque vous utilisez ce terme, ce qui, moi, fait partie de la propagande des latins crétins. Donc ça, c'est pour ça que j'invente des mots aussi comme ça. C'est que, en fait, le pays des associations, c'est l'Allemagne et non pas l'Espagne. Sur les 22 plus grandes associations mondiales, tous sports confondus, 9 sont allemandes, 2 sont espagnoles. Donc j'entends ça systématiquement depuis le début. D'ailleurs, il y a un journal qui passe son temps à trouver ça mérifique à chaque fois. Donc moi, je critique le terme de socios et je comprends pas.
Attends, sur les 9 allemands, c'est quoi? C'est les gros clubs, quoi, en quelque sorte?
Gros clubs, mais il y a pas que ça. Il y a la fédération de randonnée, par exemple, qui est l'une des plus grandes du monde, etc. Il y a plus. C'est pas juste. C'est pas nouveau. On a l'impression.
Le système
des membres d'une association. Si c'est une association toute simple au départ, hein, comme si vous alliez dans un club d'échecs ou jouer aux boules, quoi. C'est le truc tout classique. Ce qu'on appelle le système associatif, on a l'impression qu'on le découvre comme ça. Non, c'est je suis peut-être que Stéphane fait partie d'une association où il paye une cotisation tous les ans, etc. Sauf qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Le football est devenu l'une des activités les plus sportives, la plus importante, et qu'il y a des millions, pour ne pas dire des milliards, qui sont arrivés. Donc il a fallu s'adapter. Mais on a l'impression d'un truc, le modèle des socios. Mais non, c'est juste un système associatif.
C'est un peu différent, l'association et les socios. Sur ce, je comprends, moi, Polo. C'est-à-dire que un membre d'association me paraît plus passif qu'un socios. Moi, le socios, je l'imagine comme quelqu'un d'actif dans le pouvoir de décision du club. Dans une assos, tu peux être membre, mais membre juste pour pratiquer une activité sans t'intéresser forcément à la gouvernance. Le socios, il me semble être lui, normalement, hein, moi, l'image que j'en ai en tous les cas, c'est d'être en lien direct avec la gouvernance de l'association. C'est presque un modèle politique, quoi.
Ouais, c'est un modèle plus participatif, on va dire. Mmh. Modèle socios, comme on l'appelle, en tout cas.
Et alors, quelles sont les limites, là Polo est parti. Nous, on a des problèmes de connexion ce soir. C'est toujours contrariant, ça m'énerve. C'est comme ça.
Calmez-vous.
tranquille. Comment tu veux faire correctement une émission si à chaque fois ça coupe? Bon, bref. Tiens, j'accueille Pedro, qui nous rejoint, qui est socio du Barça. Pedro, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Salut.
Bonsoir Pedro.
Alors, t'écoutais Polo lundi dernier?
Ouais, j'écoutais Polo et j'ai failli avaler mon jambon de travers et mon pain à la tomate. parce que poser la question en 2022 de à quoi ça sert un socio, c'est surtout en fait ce que dit Polo, il a raison. C'est vrai que les Espagnols n'ont pas inventé le modèle associatif. On a 4 clubs en Espagne qui sont associatifs. Il y a le Barça, le Real, l'Athletic Club de Bilbao et Osasuna, qui en fait bénéficient d'une exemption à la règle, puisque la règle c'est tout club doit devenir une société anonyme sportive. Donc il y a 4 clubs qui sont une exception, c'est ces 4 là.
Il y en a 4 en Liga, ouais.
Oui. D'accord. Oui. Ça fonctionne comme ça. Et nous, pardon, mais on est une association depuis 122 ans maintenant. Donc on l'a pas découvert il y a 2 jours.
Non, mais ce que disait Polo, c'était plus fin que ça. C'est-à-dire qu'il se demandait, dans le grand charivari budgétaire du Barça, tant l'an passé que cette année, finalement, quelle avait été la parole des socios là-dedans. Est-ce qu'ils validaient les montages tous plus imaginatifs, pour être positifs, les uns que les autres?
Alors, comme dans toute association, il y a une assemblée générale. Sauf que dans les clubs, on va dire traditionnels, il y a des actionnaires et tout un chacun ne peut pas intervenir lors d'une assemblée générale d'actionnaires. Nous, quand on est socios, on peut intervenir par un système de désignation, mais on peut intervenir directement. Donc, on connaît les chiffres. Ce qu'on ne savait pas, c'était le détail des contrats de chaque joueur. Ce qu'on savait, c'était la masse salariale. Et une masse salariale à 500 millions, quand on génère 1 milliard, ça pose pas de problème. Ce qu'on ne savait pas, c'est que d'année en année, le contrat des joueurs les plus importants, les salaires allaient augmenter. Ça, on n'en avait pas connaissance. Nous, ce qu'on avait comme connaissance, c'était un chiffre dans un bilan comptable. Et le bilan comptable, il est sincère, il est audité. Donc, de ce point de vue-là, le socio a fait son travail. Il a regardé, il a approuvé les comptes. Maintenant, l'année dernière, le rôle du socio, il est décisif. Puisque grâce à la mobilisation des socios, on a obtenu plus de 15% des signatures des membres pour pouvoir déclencher une motion de censure. Et avant le vote de motion de censure, le président est parti. C'est quand même pas rien, un club où les supporters sont capables de faire partir un président. Je veux dire, c'est la définition même du pouvoir. Donc moi, je récuse complètement le manque de vigilance des socios sur la gestion Bartomeu, parce que nous n'en avions pas connaissance. Et nous ne pouvions pas savoir quelle était la réalité des contrats, puisque dans tous les clubs du monde, les contrats ne sont pas publics. Les contrats entre un joueur et l'entité ne sont pas publics. Et je ne pense pas que ce soit bien différent.
Non, mais le Bartomeu que vous chargez, il n'est pas à lui seul responsable du 1,3 milliard de dettes. C'est-à-dire que c'est un process qui, j'imagine, a été engagé il y a
mais c'est pas un problème.
Il y a quelques années.
Je vais choquer, mais c'est 1,3 milliard de dettes, c'est même 1,35 milliard. Ça n'est pas un problème.
Ah bon?
Quand pour une entité qui en vaut 5 milliards et qui génère tous les ans, quand tout va bien, entre 800 millions et 1 milliard, ça n'est pas un problème. Vous prenez 95% des boîtes en France et vous avez des chiffres qui sont totalement comparables. Toutes les entreprises du monde sont endettées. 1,35 milliard, du moment où vous arrivez à refinancer votre dette, ça ne pose pas de problème. Et ce soir, le Barça est passé dans les agences de notation de la note qu'on dit triple B- à triple B. Et les prochaines...
Ce qui n'est pas terrible, prochaines... que ce soit B- ou B, c'est pas terrible du tout.
Ça reste
un club de foot.
Il est capable de se refinancer à 1,9%. Voilà. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a beaucoup de clubs qui sont capables d'obtenir un prêt à 1,9%.
Moi, je suis d'accord avec
Kevin, et ensuite Polo, parce que je l'entends qui grogne là.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Attends, Kevin d'abord.
Moi, je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis, Pedro, c'est-à-dire que faut arrêter de penser que la dette c'est un problème. Chaque investisseur sait que s'endetter c'est pas un souci si t'as la capacité de rembourser et si pour le coup ton projet est viable auprès d'une banque. Donc tant qu'on te prête et que t'arrives à rembourser, il y a pas de problème. Par contre, le souci c'est que ce qu'on peut se demander c'est comment. Une association ou
une dette qui est liée, excuse-moi Kevin, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Une dette qui est liée uniquement à des salaires et des frais de fonctionnement, c'est suicidaire. Les boîtes s'endettent pour investir, elles s'endettent pas pour payer les salaires. Par exemple, que le Barça cet été ait été capable de mettre, moi je sais pas par quelle magie, pour moi c'est de l'argent magique le Barça. Être capable de prendre Rafinha quand t'as prolongé Dembélé, quel est le sens sportif et surtout économique de ça. Ça n'a aucun sens.
C'est de ne pas perdre Dembélé libre pour peut-être le vendre l'été prochain. Ça s'appelle un investissement, Stéphane.
Alors, Polo et ensuite Pedro.
Il y a plusieurs choses. Je rappelle que moi, je suis pour ce système. Et qu'en Allemagne, ça porte un nom, c'est l'opposition entre le pouvoir de l'investisseur, qui est d'ailleurs aujourd'hui très important parce qu'on est dans une période économique où on favorise toujours l'investisseur, par rapport à ce qu'on appelle la démocratie des membres. Donc, je vous ai expliqué que sur les 22 plus grandes associations mondiales, 9 sont allemandes. Donc, quand moi, je vois un journal, en l'occurrence l'équipe, qui passe son temps à faire des articles en disant « l'Espagne, c'est merveilleux, le système des membres, etc., relayé évidemment par la presse française très latine, etc. C'est, moi, je leur dis, écoutez, commencez à faire votre boulot, les gars. C'est tout ce que je dis. Sur cette première chose, le véritable pays des associations, c'est l'Allemagne, avec quelque chose qu'ils ont développé encore plus qu'en Espagne, c'est le fameux 50+1, mais ça, on n'a pas le temps d'en parler, avec plein de mensonges, parce qu'on dit que les Allemands ne veulent pas des investisseurs et ceci, cela, mais ça n'a rien à voir. Par exemple, Schalke 04, qui vient de revenir en Bundesliga, est un club qui est 100% associatif. Le club de Mayence est 100% associatif. Le club de Fribourg est 100% associatif. Donc, faut pas. L'Union de Berlin, évidemment, est 100% associatif. Mais vous avez des variations dedans, comme le Bayern Munich, qui a l'autorisation de 98, en fait, c'est quoi? C'est que comme en Espagne, en première ligue aujourd'hui, et en Italie, le pognon est arrivé. Eh ben, les associations, elles avaient le savoir-faire du personnel, parce qu'il faut voir d'où on vient dans le monde du foot aussi, hein. C'est toujours intéressant de voir les capacités des personnes, etc. Parce que dès que tu commences à augmenter de chiffre d'affaires, et ben tu commences à gérer le cas des joueurs qui touchent, etc. Et vous avez des investisseurs qui ont voulu arriver dans le football, sauf que tu rentres pas au capital d'une association, ça n'existe pas. Donc l'Allemagne a fait la fameuse règle du 50+1, c'est-à-dire que on peut autoriser une association qui en général est Omnisport a externationalisé le football et a créé une société commerciale, mais qui est détenue en majorité par qui ? Par l'association. Le Bayern Munich étant le plus beau des modèles, 25% du capital sont détenus par les fameux 3A, donc Adidas, Audi et Allianz, et 75% du reste du capital du Bayern Munich est détenu par l'association. Donc moi je suis pour ce modèle, donc pour ça que j'ai bien, quand tu disais tout à l'heure que je me parle système, mais bien sûr que si, c'est le système que je veux. Là où je m'opposais, donc un, c'était idéologiquement sur le fait qu'on n'arrête pas de me gonfler en disant que ça vient d'Espagne ou que c'est l'Espagne le pays, c'est faux, c'est complètement faux, c'est l'Allemagne largement au-dessus à ce niveau-là. Ensuite, il y a les termes utilisés socios, que je vois dans certains clubs à longueur de temps où il y a un cadre juridique à fixer qu'on ne fait pas parce qu'il y a justement des contreparties, c'est le fameux contre-pouvoir des membres, c'est ce qui explique très bien Pedro, c'est-à-dire qu'on doit regarder ce qui se passe et c'est pas le milliardaire qui est en face qui doit nous dire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire ça c'est des luttes internes évidemment très importantes, et donc on n'est pas du tout dans le modèle anglais par exemple ou le modèle de la Première Ligue, c'est autre chose. Et la troisième chose dont je voulais parler, c'est que pourquoi je m'énervais hier, c'est que j'ai l'impression, Pedro est en train de démentir ce que j'ai dit la semaine dernière ou lundi, je sais plus, c'était le fait que on ne découvre, moi j'avais l'impression, si tu veux lundi, qu'on découvrait que le Barça, que la dette était passée de 0 à 1,3 milliard du jour au lendemain. Je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Pedro.
Elle est à plus d'un milliard depuis des années.
Oui, bah justement.
Depuis des années. C'est historique.
Et justement, alors toi, tu dis que c'est pas grave dans les sociétés. Si, en tant qu'ancien financier, quand ton chiffre d'affaires, t'as besoin de 2 ans pour rembourser ta dette, ça commence à devenir compliqué. Ensuite, évidemment, il y a la fameuse valorisation des clubs, mais on va pas trop enquiquiner nos auditeurs avec ça, mais qui est très, très variable. Hein. Je te rappelle le départ de Messi, la valorisation théorique, parce qu'il y a plein de sponsors qui viennent parce que des joueurs sont très importants pour un club. Donc ça, c'est très délicat. Mais j'ai eu le sentiment, si tu veux, le Barça, j'ai eu le sentiment que beaucoup de personnes découvraient les problèmes du Barça. Et moi, ce qui m'intéressait dans le débat de lundi, et c'est pour ça que je te remercie d'être là, c'est que tu as très bien dit qu'on peut déposer des motions. Mais ça, c'est dans les statuts de l'association. On peut pas faire n'importe quoi non plus. Sinon, tu déposes des motions pour n'importe quoi, la couleur du papier chiotte, etc. Tu peux faire ce que tu veux. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut dire au président « Hey, il y a un problème, viens nous expliquer ce qui s'est passé ». Je vous donne un exemple très simple. L'Union Berlin, association à 100%, j'en suis membre, nous avons des capitaux propres négatifs. C'est normal, nous sommes quasiment en création de club. Et il faut absolument qu'on cherche... Donc j'ai un endettement qui est très important, à hauteur de 100% de mon chiffre d'affaires, hein, 70 millions en gros. Donc c'est 2 fois moins au passage que le Barça, par exemple, où Pedro nous dit que c'est pas grave. Chez nous, c'est grave. Et parce que les capacités de remboursement sont délicates, mais on sait très bien...
C'est 20 fois moins, tu veux dire, parce que tu dis 70 millions et le Barça, c'est 1,3 milliard.
Non, 1,3 milliard, mais par rapport à son chiffre d'affaires.
Par rapport au chiffre d'affaires,
c'est 2 fois supérieur. D'accord. Donc nous, on sait très bien que c'est super dangereux pour nous, mais on est conscient qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on n'a personne qui va nous aider. Sauf avec une spécificité des associations, ce qu'on appelle les fans en laïe, donc les prêts des fans, qui sont évidemment donnés à la bourse de Francfort. C'est-à-dire que si mon club, par exemple, Union, a besoin de liquidités, il a le droit d'éditer un prêt remboursable, évidemment. Tout ça est très bien dit en place, et je peux filer, par exemple, 1000 euros, qu'on me filera 4% par an, etc.
Là où je m'opposais
lundi, c'était, les gars, ouvrez les yeux, c'est ça ce que je veux dire. Donc Pedro est en train de me répondre, mais on le sait déjà depuis des années. Moi, quand je vois la tronche, excusez-moi, je vais dire un gros mot, des comptes du FC Barcelone, je trouve pas ça sain. Mais si on me dit que c'est extraordinaire, ok, pas de souci.
Non mais Paulo, on n'a pas dit que c'était extraordinaire.
Non, excuse-moi, mais j'aimerais que Pedro puisse réexpliquer, parce que ça va répondre aussi à la question de Paulo. Donc la fameuse histoire de l'argent magique dont parlait Stéphane, là.
J'ai jamais dit que c'était extraordinaire d'avoir une dette à 1,35 milliard. Évidemment, on se porterait mieux si on avait une dette qui représentait 10% de la somme. Mais ce qu'est en train de faire le Barça, comme il n'a pas d'investisseur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un État derrière qui peut apporter des fonds, il n'y a pas un milliardaire derrière qui peut en mettre au pot, il faut que le club génère des revenus par lui-même. Et quand il n'est pas en capacité de les générer tout de suite, il vend des actifs. C'est ce qu'est en train de faire le Barça. Et pour qu'on remette un peu dans le contexte ce que représente par exemple vendre 25% des droits télé, ça représente 5% des revenus annuels du club. Là, toute la grande histoire qu'on est en train de faire, c'est vendre 5% des revenus annuels du club. Je pense que le Barça pourra s'en remettre. Et Barça Studio qui a été vendu, donc c'est la société de production, valorisée, donc 50% a été vendu pour 200 millions, c'était un actif dormant. c'était un actif dont le club ne faisait strictement rien. Donc, le Barça a pu recruter et va pouvoir inscrire en vendant des actifs qui lui sont propres et qui ne mettent pas en danger la viabilité du club. Parce que, encore une fois, ça représente 5% des revenus annuels.
Oui, mais c'est 40 puis, millions. Et puis, il n'y a pas que c'est ça. C'est Pierre Rondeau qui était venu dans l'after il y a quelques semaines. Moi, j'avais noté, parce que ça m'avait vraiment intéressé, la façon dont il avait expliqué très en détail ce qu'a fait le Barça. Donc, il y a ce que tu dis, bien sûr, il y a 49% de Barça Studio, même si je crois qu'ils en ont revendu une petite partie cette semaine.
Non, c'est 49% au total. Ils avaient vendu 25% et là, voilà, ils ont
49%,
revendu
moi, j'avais noté 300 millions. Et ensuite, il y a aussi la dette de 1,5 milliard qui avait été... La dette a été réchelonnée avec un crédit chez Goldman
oui.
Sachs, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Voilà. Et donc après, bon, il y a les amortissements, les transferts dont on a parlé, Lewandowski, etc. C'est pas des sommes cash que tu vas payer, c'est un amortissement sur plusieurs années. Ça, on a commencé à le comprendre. Il y a le contrat avec Spotify pour 70 millions d'euros par an, ce qui est énorme.
Voilà, d'accord,
il y a... Okay. Non, mais je veux dire, ils vont pas le chercher, c'est pas de l'argent magique.
Pedro, toi, ta masse salariale, elle est combien?
Non, mais d'accord,
650 pour un chiffre d'affaires de 800.
Mais d'accord, mais c'est pas de l'argent magique. On est d'accord?
Est-ce que c'est 650 non, à Masala? C'est 650. Or, non, mais ça c'est les dernières années. Faut regarder le. C'est combien? C'est pas 800. T'es au niveau du Bayern. Le Bayern c'est 750 hors pandémie.
Non. On est hors pandémie. On est pratiquement un milliard. Le Barça est le premier club qui a touché le milliard. C'est-à-dire c'est
donc, 650 t'es à 60%. Ta masse salariale c'est 60%, 65% de ton chiffre d'affaires. On te.
Ouais, mais
on a une limite, milliard. Ça n'existe pas. Tu peux pas gagner de l'argent avec ça.
On ne peut pas gagner de l'argent à 70%. Mais qui vous dit qu'il faut gagner de l'argent? Mais qui vous dit qu'il faut gagner de l'argent?
Ben non,
vous
savez
ce que c'est une bonne année.
Parce que toi tu dis on commence à vendre. Mais oui, tu commences à vendre les bijoux de famille. C'est très bien, en fait. Mais tu dis que c'est pas grave.
Oui.
Mais non, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des problèmes de liquidité à court terme, si j'ai bien compris, parce que malheureusement, je parle pas l'espagnol. Mais en fait, vous vendez, vous avez besoin de rééchelonner la dette sur 25 ans. En général, quand tu commences à faire ça, c'est pas bon signe, parce que moi, je connais pas une entreprise qui est saine, qui commence à faire ça. Tu vois, ça existe pas, ça. C'est quand on a des problèmes, c'est Schalke nous le fire, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Au passage, Schalke nous le fire, leur endettement, c'est juste 100% de son chiffre d'affaires. Donc, c'est deux fois moins que le Barça. Mais on nous dit que c'est génial. Et on nous explique que Schalke, ils ont les problème là là ou là.
Donc non, moi, si tu veux, une dette à 1,350 milliard, c'était donc, génial.
Ça, non, mais, ça, mais moi, j'aimerais bien dans ce que tu me dises. Quand il y a les assemblées générales annuelles, parce qu'on a les mêmes choses au Bayern, comment fait-on pour déposer des motions de censure en disant il y a un problème? Est-ce qu'il y a des groupes chez vous qui disent, gars, ça commence à déconner là, parce que vous faites un peu n'importe quoi, et on se dit bon, ok. Alors après on peut très bien te dire, mais non, mais nous on parie sur le football, hein, c'est la grande phrase du moment des économistes globalisés qui nous expliquent, mais non, le football va exploser, le football c'est ceci, le football c'est cela, le football il a pas vu arriver la pandémie, il a pas vu arriver la baisse des droits télé non plus. Hein. Mais c'est pas grave.
Le football est un marché mature. Tant qu'on aura d'autres choses, d'autres compétitions qui peuvent augmenter les revenus, les revenus sont ce qu'ils sont et ils baissent.
Oui. Ils baissent,
Pour le coup, Pedro, je suis vraiment pas sûr que ce soit d'autres compétitions qui vont régler le problème. C'est plutôt un fonctionnement. Et là, moi, je suis pas du tout contre Polo parce que je trouve que le fonctionnement des clubs allemands, c'est excellent et c'est ce à quoi devraient venir tous les clubs. Parce que pour moi, c'est parfait comme fonctionnement.
C'est pas possible.
C'est
pas possible à cause de la valorisation
juridique, c'est fini effectivement.
Mais à cause de la valorisation, non, mais il y a ça, Gilbert, mais à cause de la valorisation, ça aurait été possible de le faire à Strasbourg lorsque Strasbourg était amateur en 5e division. Tu peux créer une association et tu recrées, etc., avec les problèmes de licence, bien sûr. Mais tu peux pas créer. Moi, ça fait depuis qu'on a commencé à parler des socios depuis quelques années. Je sais pas combien d'associations de supporters qui m'ont contacté pour mettre ça en place. J'ai dit, mais les gars. Un club de football, aujourd'hui, il est valorisé avec des millions. Tu ne peux pas créer un truc.
Tu sais qu'il y a un exemple au Portugal qui est Belenenses, ouais. Où l'association a voulu se séparer de sa SASP. Mmh. Ça a mis du temps, hein, des procédures. Ils leur ont pris le logo, ils leur ont pris le stade. Et aujourd'hui, l'association a reparti à un très bas niveau, est en train de remonter petit à petit, alors que la SASP est en train de dégringoler.
La question, moi, je la trouve passionnante sur l'histoire des membres, parce que comme ça, je vais prendre un mot neutre, tu vois, je vais pas prendre ni mythe leader, ni socios, des membres. De l'association, c'est est-ce que dans le modèle barcelonais, est-ce que les clubs de l'élite, Parce qu'en fait, le vrai débat, c'est la démocratie contre l'élitisme. C'est l'élitisme de l'argent, des investisseurs, contre des gens qui sont... Moi, rien. Je suis l'Union de Berlin. Ça fait 4 ans que je suis en Bundesliga. J'ai pas vocation, mon club avec 22 000 places, j'ai pas vocation à remporter la Ligue des Champions. Je m'éclate avec mon modèle. Pourquoi ? Parce que ça représente une partie de ce qu'était l'ex-DDR. Donc, il faut un peu d'empathie sur ce qui s'est passé sur cette population à l'époque, etc. Je suis pas là, j'ai pas vocation à fanfaronner en disant je veux gagner, je vais mettre 3-0 en finale de Ligue des Champions. Donc, tous les problèmes de pognon, si tu veux, c'est à côté. Quand tu es un club globalisé comme le Barça, comme le Bayern, comme le Real, comme les clubs anglais qui, eux, n'ont pas ce même problème, est-ce que le modèle des membres est encore utile ? Parce que c'est tellement...
C'est le seul moyen de survivre là-dessus. Et qu'on ne tombe pas un jour entre les mains d'un État, du Qatar, de l'Arabie Saoudite.
Non, c'est pas que le Qatar, c'est d'un investisseur quel qu'il soit.
Laisse finir Pedro.
On sait que personne viendra nous acheter. On garde la main sur le contrôle du club. Et je voudrais
qu'il n'y ait pas propriétaire. Parce que c'est l'association qui est propriétaire. C'est pas vous. Mais non, c'est l'association qui est propriétaire. C'est pas toi.
Mais peu importe, c'est les membres.
Sinon, tu pourrais très bien le vendre.
Laissez finir Pedro.
Mais c'est pas l'objectif. Et moi, je voudrais casser un mythe parce que on parle des clubs riches, Real et Barça. Mais je voudrais juste dire un truc, c'est que on touche pas de dividendes à la fin de l'année. Le président n'est pas payé. On se gaffe pas. Il y a pas de stock option. Sincèrement, vous savez ce que c'est une bonne année pour le Real et le Barça? C'est 10 millions de bénéfices entièrement réinvestis dans le club. Ça, c'est une bonne année. Donc nous, on fait, je vais vous le dire sincèrement, ça coûte de l'argent à tout le monde. Quand on est membre d'une association comme le Real ou le Barça, ça coûte de l'argent. Ça coûte la cotise, ça coûte l'abonnement au stade, ça coûte après d'acheter les maillots. Et en plus, quand on le fait, on sait qu'on n'a pas de retour économique. Sauf pour ceux qui avaient fait négoce des places, mais ça c'est fini. À partir de cette saison, c'est fini.
Et on est bien d'accord, Pedro, qu'une association n'est pas là pour financer le club. L'argent que tu donnes chaque année, ta cotisation, elle ne doit pas être utilisée dans l'exploitation du club.
Non, mais c'est pas ce qu'on fait. C'est pas avec les 195 euros qu'on paye chaque année de cotisation qu'on va sauver le club.
170 000, c'est ça ?
140 000. 145 000 au dernier pointage.
Au niveau
non, ça n'a pas baissé, là ça a été rouvert.
Mais c'était passionnant.
Je gueule sur le fait qu'on trouve que c'est plutôt merveilleux en Espagne et pas les autres. Je gueule sur la médiocrité du journalisme français qui ne fait pas son boulot en expliquant d'où ça vient. Et la troisième chose, je ne sais plus ce que c'est.
C'est pas grave, tu gueuleras un autre jour. Merci Polo. Merci Pedro également, c'était très
bonne
intéressant.
Soirée,
à très bientôt.
À bientôt.
On conclut là, on a encore 10 minutes d'after avec toute l'actu du jour et il y en a pas mal, notamment sur le match Lorient-Lyon. À tout de suite.